Sur la ratification de l'accord, in fine, l'accord il devra être ratifié à l'unanimité au niveau du Conseil européen et au niveau du Parlement européen, également par une majorité qualifiée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut, il faut solliciter nos parlementaires européens, il faut les interroger, il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils soient présents sur le terrain, parce que je suis d'accord avec vous qu'ils ne sont pas... Le débat en France, on va dire, n'est pas tellement porté par les acteurs politiques. Il y a une certaine prudence du gouvernement sur le sujet. Quelle est la portée, finalement, de la politique les enjeux commerciaux n'étaient pas très présents jusqu'ici dans les débats publics. Toutes les différentes négociations bilatérales qui ont été menées par la Commission européenne, on en a peu d'écho. Elles existent, elles sont là. Je vous mentionnais la Corée. On vient de conclure avec le Vietnam. On poursuit, on renégocie avec le Mexique. La Commission européenne s'apprête à demander la validation de l'ouverture des négociations avec l'Australie et avec la Nouvelle-Zélande. Il y a toute une série de négociations qui sont menées par le monde. C'est quand même ce qui a assuré à l'Union européenne jusqu'ici son rôle de puissance commerciale, qui aujourd'hui commence à être talonné, si je puis dire, par la Chine, mais qui a fait que sur les décennies, la décennie précédente, la réduction de la part de l'Union européenne dans le commerce mondial a été nettement moins significative que celle des États-Unis dans le commerce mondial et que celle du Japon. C'est que les Européens arrivent à se maintenir de manière significative et offensive. Et sans aucun doute, on a tendance à aborder cet enjeu côté européen avec un certain défaitisme, une certaine crainte vis-à-vis du partenaire ou du concurrent, parce que c'est comme ça qu'on a envie de le voir, concurrent américain, et c'est les deux, en l'occurrence, dans cet exercice. On le voit sur le niveau de précaution, sur la conviction qu'on peut avoir d'avoir un niveau plus élevé. Il y a une méfiance réelle, il y a une méfiance vis-à-vis des multinationales américaines, mais nous avons nos multinationales, et nous avons à soutenir aussi nos PME. Je pense qu'il y a ce qui est beaucoup plus difficile à percevoir, et précisément parce que ça n'a pas été très présent dans les débats publics jusqu'à maintenant, c'est le rôle du commerce dans la croissance économique et le rôle, quelle place finalement dans la croissance économique. Je pense que quand on... Les petits chiffres que j'évoquais au début, en première partie, nous poussent quand même à essayer de voir quelle est la place de cette facilitation des échanges, puisqu'on n'est plus dans une logique aujourd'hui où il s'agit de qui a pu être légitime à une certaine époque, mais de freiner les importations pour protéger nos producteurs nationaux ou européens, mais on a besoin d'un pouvoir importer pour pouvoir exporter. Et donc cette facilitation des échanges, elle doit se faire dans les deux sens, et on a l'occasion de pouvoir explorer un terrain en matière de encore une fois de promotion de nos normes qui est un défi de long terme à côté duquel il faut peut-être il faut prendre le temps. C'est pour ça que je pense que c'est important précisément que ces négociations ne soient pas précipitées, et prendre le temps de voir exactement comment on procède. Écarter d'entrée de jeu cette négociation, il faut essayer d'anticiper aussi quel serait le prix d'une non-négociation. Parce qu'on voit on voit côté TPP, la négociation transpacifique. De ce que l'on perçoit à l'heure actuelle, encore une fois, il va falloir ouvrir... lire ce document ligne à ligne, c'est peut-être moins un exercice d'intégration commerciale très ambitieux, d'ouverture des marchés très ambitieuse, parce que ça reste relativement limité. et davantage un effort de mise en cohérence réglementaire qui a été fait sur un certain nombre de questions, sur les lois anticorruption, sur les entreprises d'État, sur la protection du travail, de l'environnement. Il y a un certain nombre de points qui vont assez loin, la propriété intellectuelle. Donc c'est peut-être plus... Ça a été peut-être plus ambitieux sur ce volet-là que véritablement en matière d'intégration commerciale. Mais c'est indéniablement quand même une négociation qui va faire bouger les lignes et qui va appeler aussi une réaction côté chinois. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aussi qu'on ait une plus grande lisibilité de la place de la négociation du TTIP dans la stratégie commerciale européenne de l'ensemble. Et on attend là un peu que un papier de la Commission européenne qui devrait bientôt arriver là-dessus, qui donne un peu plus la visibilité. Comment se positionne cette négociation par rapport à la négociation que l'on mène avec les Chinois en matière d'investissement, avec la Corée, on voudrait rajouter aussi un volet investissement. Enfin, comment tout ça se coordonne. Alors, vous parliez du volet... compétences réglementaires. Est-ce qu'on n'y perd pas finalement aussi Est-ce qu'on ne va pas un peu vite Parce que sur l'argument des bénéfices en tant que tel pour les entreprises européennes, avant de revenir au réglementaire, pour les entreprises européennes, il y a un enjeu qui est de se dire mais est-ce que finalement ce ne sont pas les multinationales qui tirent le mieux leur épingle du jeu? Il est évident que les multinationales tireraient bien leur épingle du jeu. Mais les multinationales, ce sont aussi nos employeurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une confrontation multinationales PME. Et en l'occurrence, le différentiel des bénéfices que ça peut représenter pour des PME est peut-être plus décisif justement que pour les multinationales. Et c'est là où même le chapitre PME est un enjeu clé. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien à l'esprit. Alors maintenant, si on revient sur la coopération réglementaire, est-ce qu'on met en péril notre capacité à réglementer, notre autonomie, surtout à réglementer? Là, j'ai pas mentionné le Conseil de coopération réglementaire qui a été proposé, notamment à l'initiative européenne, comme pouvant être créé dans le cadre de cette négociation du TTIP, et qui concernerait non pas les normes actuelles qui sont adoptées, mais qui concernerait les normes à venir, celles qu'on est appelé à développer pour les secteurs en développement, les nanotechnologies, tous les différents secteurs qui sont en train de se développer. Ce qui est proposé par la Commission européenne en la matière, ça n'est pas une instance, ça n'est pas de créer une institution qui serait appelée à définir en commun les normes et qui court-circuiterait nos instances légitimes, que ce soit côté européen comme côté américain. C'est une plateforme d'échange d'informations à un stade préalable. Au moment où l'on s'apprête côté européen à adopter telle norme, ou côté américain, il procède de même, essayer de voir s'il y a un stade précoce où l'on fixe nos niveaux de précaution, mais également l'administration, la façon dont on va s'appliquer cette précaution. Est-ce que l'on arrive à se mettre d'accord ou pas? Est-ce que c'est possible, compte tenu du niveau de précaution qu'on vise à exercer, pour aboutir d'entrée de jeu à une norme commune? De ce que j'ai vu, là, dans le coup d'œil que j'ai jeté dans l'accord du TPP, il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça. En matière de coopération réglementaire, dans ce qu'ils sont en train d'évoquer, il y a quelque chose qui ressemble et qui évoque notamment les domaines à venir et les normes à venir. Donc c'est un peu... C'est quelque chose qui est relativement circonscrit et qui ne met pas en cause le pouvoir de réglementation des États. Alors, ça nous renvoie quand même, je ne veux pas être trop longue sur une question, mais c'est une question majeure, ça nous renvoie quand même à la question des tribunaux de règlement investisseur-État. Je dirais que la cour permanente, elle permet d'apporter des garanties sur le choix des juges, parce qu'il y aurait une sélection de juges qui seraient nommés avec un certain nombre de juges américains, européens et des États tiers. Il y aurait des principes de transparence, il y aurait des définitions très précises sur les conditions dans lesquelles, les critères sur lesquels une entreprise peut déposer une plainte. Il y a toute une série de garanties qui seraient apportées par cette cour. Et puis il y a un mécanisme d'appel qui est envisagé, qui est quelque chose d'essentiel, puisqu'il y aurait un tribunal de première instance et un mécanisme d'appel. Donc on voit bien que les choses sont beaucoup plus verrouillées. Ça n'empêche qu'il y a un jeu. On aboutirait quand même à un jugement, et que tout jugement pourrait induire également quand même qu'il y ait un dédommagement qui puisse être versé et que ce soit significatif vis-à-vis d'un État. Ce que je veux dire, c'est que le règlement d'une discrimination, puisqu'on est bien sur un cas de discrimination, c'est bien de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de pouvoir permettre à une entreprise de revendiquer le montant de profit qu'elle envisageait de percevoir et qu'elle n'aurait pas perçu en fonction de la modification d'un règlement. C'est là où on voit qu'il y a des enjeux de définition de la discrimination, de ce qui peut être admis au niveau de ce tribunal, comme d'ailleurs dans tout mécanisme d'ISDS, qui est précision de sa définition, qui est un enjeu essentiel et qui doit véritablement limiter le type de plainte qui peut être déposée. Mais si une plainte est avérée comme recevable, elle aboutit à des versements d'indemnités qui sont importants. Alors, est-ce qu'on neutralise complètement le risque de gel réglementaire ? La question peut se poser. Mais la légitimité d'une entreprise qui a subi un véritable dommage, la question, il faut qu'il y ait un mécanisme également juridique pour trancher ces questions.